Salut, salut, je m'appelle Mathilde Piton et vous écoutez What's Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaires. La saison 1 de What's Next était dédiée au changement professionnel et dans cette saison 2, on parle plus spécifiquement de l'influence de l'âge sur la suite de la carrière et de la vie. Mon invitée aujourd'hui est une spécialiste du vêtement. Elle écrit, elle conseille, elle organise des détox penderies. Isabelle Thomas, aussi connue sous le pseudo mode personnel, est mon invitée aujourd'hui. Elle va nous parler de ce qu'on peut porter ou pas au fil de la vie. On va parler de l'évolution de notre garde-robe, d'image de soi. On va parler d'âge, bien sûr. Mais est-ce qu'Isabelle va répondre à ma question un peu embêtante ? Quel âge as-tu ? La réponse d'Isabelle, tout en nuances, va sans doute vous intéresser. Je m'appelle Mathilde Piton, je vis aux États-Unis, à Boston plus précisément, depuis 2012. Dans la vie, j'ai été éditrice de livres pratiques, j'ai été prof de yoga, autrice de guides de voyage, j'ai fondé une société de visites guidées en français à Boston que j'ai revendue. J'ai traduit, écrit, co-écrit des livres et aujourd'hui, entre autres, je vous propose ce nouveau projet, What's Next, qui est à la fois une newsletter et ce podcast. Le lien pour accéder à l'intégralité de What's Next est en note de ce podcast. Vous pouvez y accéder sur whatsnextmathilde.substack.com. Vous pouvez lire des essais personnels sur la midlife, le fait d'avoir un premier enfant tard, le rapport au corps, le couple longue durée, le creux de la vague de l'amitié. Et puis, je partage aussi une fois par mois des recommandations de lecture, ciné, série, podcast, made in USA. Vous me lisez là-bas grâce à un abonnement mensuel d'environ 6 euros, 6,50 euros, 7 dollars en fait américains. Et pour un abonnement annuel, vous accédez aussi à notre super groupe d'écriture, un atelier tous les derniers mardis du mois pour écrire vous aussi vos propres essais personnels. Vous me lisez dans la newsletter, vous participez, vous likez, commentez, vous parlez de ce podcast autour de vous. En fait, c'est vous qui faites exister What's Next. Alors merci d'être là et place maintenant à ma conversation avec Isabelle Thomas. Dans sa rubrique « Dans l'œil de la styliste » publiée dans le L, Isabelle Thomas pose des questions comme « Moins de vêtements, c'est vraiment mieux ?» propose des nouveaux looks plus cool pour bosser ou dans sa dernière chronique du 1er mars, nous recommande 5 conseils mode à ne pas suivre. Isabelle Thomas est styliste personnelle et thérapeute. Je l'ai découverte entre guillemets sur Instagram et j'ai tout de suite accroché à son style unique. Il faudra qu'elle me dise comment elle le qualifie, j'ose pas le faire ici, j'ose pas le définir là comme ça. Alors, Isabelle a d'abord été animatrice chez Radio France. Elle a ensuite travaillé dans une société de production de films. Elle a fait du doublage, elle a été scénariste. Et puis, la voilà maintenant journaliste et autrice avec une dizaine de livres à son actif, comme le Paris Street Style que j'ai ici avec moi. C'est la version anglaise de You're So French, Cultivez votre style. Bref, Isabelle a un parcours non linéaire, créatif, comme on les aime ici dans What's Next. J'aurais bien pris un café avec elle sur une terrasse parisienne ou un thé fumant dans sa maison en Bretagne où elle se trouve actuellement. Mais aujourd'hui, on est chacune de notre côté de l'Atlantique, face à notre écran. Moi, c'est le matin à Boston, l'après-midi en Bretagne chez Isabelle. Salut Isabelle, comment tu vas ?
Salut Mathilde, ça va bien, je me réchauffe, je sais que tu dois être en t-shirt à Boston, moi je suis sous un plaid dans ma maison pleine de courants d'air.
Je voulais commencer notre entretien par une news, celle de la disparition d'Iris Apfel, qui se définissait comme starlet gériatrique, c'était ses mots. Iris est décédée vendredi 1er mars à l'âge de 102 ans. Et vous avez peut-être une idée de qui est cette personne. C'est une New-Yorkaise qui était connue pour son allure extravagante. Elle avait des grandes lunettes hublot, des cheveux courts blancs brillants et souvent de très gros bracelets qui recouvraient ses bras. Elle avait un style maximaliste qui a fait d'elle une véritable influenceuse mode jusqu'à ses 102 ans. Iris Apfel, elle a défié beaucoup de codes. Et à ta façon, Isabelle, j'ai l'impression que tu défies aussi beaucoup de codes. J'ai lu pas mal de choses que tu as écrites et tu es un peu contre les injonctions entre les vêtements qu'on a le droit de porter en fonction de notre âge, le fait qu'on ne peut pas, faut cacher ses genoux, faut éviter les décolletés, le trop moulant, le trop court. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Est-ce qu'on peut tout porter à n'importe quel âge ?
Oui, on peut tout porter à n'importe quel âge, on peut tout porter quelle que soit sa silhouette, mais pas forcément n'importe comment. On peut tout porter si on en a envie, si on est à l'aise dans ses vêtements. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui ont besoin de codes, qui ont besoin de règles. Donc, pour elles, ça peut les aider d'entendre dire qu'on ne peut pas porter de pull rayé avec, si on trouve qu'on a une poitrine un peu trop généreuse, ou alors il faut arrêter de porter du court à partir d'un certain âge. Mais justement, le certain âge, ça veut dire quoi? À partir de quel âge on a un certain âge? Donc, ça, la notion est un peu floue et se déplace. Mais c'est vrai que c'était peut-être plus facile avant, quand on avait 40 ans, où on disait il faut se couper les cheveux, il faut porter du long, il faut s'attacher les cheveux aussi. Il y avait des règles et on ne se posait pas trop de questions. Aujourd'hui, c'est tellement plus libre. Alors, pour certaines personnes, ça peut être plus compliqué parce qu'on sait. On est perdu en rendez-vous. Je vois des gens qui me disent, à mon âge, est-ce que je peux encore porter ça? Alors, on ne se pose pas la question à n'importe quel âge. Il y a des femmes qui peuvent se poser cette question-là à 35 ans et d'autres se la poseront à 65 ans. Chacun met le curseur où il veut, ça se déplace selon la façon dont on ressent son âge. Il est vraiment différent selon chacun.
Il y a quelque chose que j'adorerais porter, mais à chaque fois, mon mari me fait la remarque que ça me vieillit trop. J'aimerais bien porter un bandana autour du cou, mais il me dit que ça fait foulard un peu de mémère et il trouve que ça ne va pas du tout. Donc moi, je suis un peu vexée parce que je trouve que ça fait hyper cool et il me dit, mais non, ça ne te va pas du tout, quoi.
Et c'est drôle, alors je vais parler du bandana, moi aussi je trouve ça très cool, un bandana, et on en voit beaucoup. Alors quand je dis on peut tout porter quel que soit l'âge, ça dépend comment on porte les vêtements. Si tu portes un bandana avec un t-shirt, avec un jean brut, des derbies, des chaussettes colorées, ce sera pas du tout la même chose qu'un bandana avec, d'ailleurs je vois pas ce qu'il veut dire, pourquoi un bandana ferait vieillot? Je sais pas, c'est peut-être le côté un petit peu foulard, hôtesse de l'air, un petit côté secrétaire, mais ça peut être aussi mignon. Le côté désuet peut être mignon. Mais c'est vrai que parfois, il y a des choses qu'on ne peut plus porter sur le synthétique, les petites fleurettes un peu tristounettes, ça peut passer à 20 ans. Et après, on a l'air juste triste et mémé, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus porter de petites fleurettes à partir de 50 ans. Ce ne sera pas la même chose. Par exemple, on peut très bien porter des bottes motardes, des grosses Wrangler boots, comme on en a vu beaucoup cet hiver. On ne les portera pas forcément avec un jean déchiré ni un crop top, mais ce sera avec un beau jean court et puis un blazer. C'est la tenue dans sa globalité qui est importante. C'est pas tant le vêtement lui-même. Et après, porter du court, par exemple, ça va dépendre du ressenti de chacun. Moi, j'ai plus du tout envie de porter de court depuis quelques années. Avant, j'étais très bien avec ça. J'ai eu une période où j'en portais beaucoup. Après, j'ai dit non, je veux plus. Je le sens plus. C'est plus de mon âge, mais je ne le sens plus. Puis après, j'ai eu de nouveau envie d'en porter. Et maintenant, c'est fini. Je pense que je porterai plus jamais de cours, j'ai plus envie de ça. Mais c'est pas parce que la société me l'interdit, ni les autres, ni les injonctions. C'est moi qui n'ai plus envie de ça. C'est tout.
C'est ton ressenti, comme tu dis.
Oui.
Moi, tu vois, j'ai plusieurs garde-robes. Je crois que j'en ai une en taille 38, j'en ai une en taille 40, une en taille 42 et sans doute un peu plus aussi post-grossesse. J'ai vécu à Paris. Maintenant, je vis à Boston où il fait froid 6 mois de l'année, bon, pas aujourd'hui. Et aux États-Unis, tout de même, la façon de s'habiller est quand même très relaxe et on vise souvent le confort avant tout. On peut aller en legging, bien sûr, dehors, aller limite en pyjama, faire ses courses. Toi, tu organises des détox penderies. Ça fait partie de ton savoir-faire. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on espère remettre un jour? Quand est-ce qu'on se dit c'est fini, il faut passer à autre chose? Moi, on n'a pas une garde-robe.
Alors oui, dans la détox penderie, j'apprends à faire du tri et à reporter ses vêtements autrement, à créer des mix. C'est la façon finalement la plus écologique de s'habiller. Alors, ce qu'on ne garde pas, c'est évidemment tous les vêtements qui sont tachés, datés, d'un autre âge. Alors, c'est très souvent les vêtements qui vieillissent mal, c'est des vêtements qui ont des détails qui sont marqués d'une époque. Alors, ce ne sera pas tant la coupe, ni la matière, ni l'imprimé, que des détails un peu cheap. Ça peut être des petits strass sur une épaule, des broderies qui ont marqué une période. Donc ça c'est un peu daté. Ça va être ça sera pas forcément le blouson en jean qu'on portait sur le banc de la fac, parce que celui-ci il peut être finalement intemporel, ou le trench du grand-père qui est intemporel, mais c'est vraiment des vêtements qui ont été vraiment marqués par une mode. Par la mode du moment. Donc cela, c'est bien de les éliminer. Et puis sinon, on garde plein de choses. On peut aussi garder des vêtements qui n'ont pas été portés depuis 5 ans, qu'on remet au goût du jour, qu'on redécouvre aussi. Donc là, la fameuse loi dit, bah, si on ne porte pas un vêtement depuis 2 ans, c'est pas pour rien, c'est qu'on ne le portera pas. Non, il y a plein de raisons pour lesquelles on ne porte pas un vêtement, parce qu'on n'a pas le mode d'emploi, parce qu'on n'ose pas. Donc tout ça, c'est à revoir.
Est-ce que toi, ton choix de vêtements, tu nous as déjà parlé du cours, mais est-ce qu'il a évolué à mesure de ton avancée en âge? Qu'est-ce qui ça a changé entre tes 30 ans et ton âge actuel que je t'ai pas encore demandé?
Alors oui, bien sûr, ça a changé. Je pense que on change, c'est bien. On évolue toute la vie, donc la garde-robe, les envies, nos envies évoluent. Mais j'ai toujours eu des vêtements un peu originaux, particuliers. Quand j'étais, je pense que je me suis toujours affirmée par les vêtements. J'étais très timide. J'étais un peu isolée. J'ai connu aussi 2 ans de harcèlement à l'école. Et malgré tout ça, j'étais justement le vêtement me permettait de m'affirmer. Donc je demandais à ma mère de me coudre mes habits. J'allais acheter des tissus un peu particuliers. C'était vraiment pour moi un moyen d'expression. Et ça, je l'ai jamais lâché. Et même si j'aime la mode, même si je peux adopter les tics mode du moment, j'essaye d'avoir des pièces un peu différentes, parce que ça m'amuse. C'est pas pour frimer, c'est parce que moi j'aime ça. J'adore les vêtements. Donc oui, c'est vrai, je sais pas, j'ai pas répondu à ta question. Oui, mon style évolue, et puis c'est vrai qu'il y a des vêtements, je me sens pas de les porter. Non, je dis ça, je peux pas. Et c'est vrai que je peux me dire, ah oui, si j'avais 20 ans, je m'habillerais comme ça. Je mettrais des pièces complètement fofolles, des couleurs, mais là, ce serait pathétique. Enfin, je veux plus ça, quoi. Ça marche plus.
Et alors, je vais te demander, donc, quel âge as-tu, Isabelle?
Ben, j'ai l'âge que tu me donnes. Voilà.
D'accord.
C'est souvent ce que je réponds. Parce que finalement, on a des âges différents. Moi, j'ai un âge, j'ai mon âge civil, j'ai mon âge, l'âge que j'ai dans la tête, et qui peut évoluer tous les jours, même plusieurs fois par jour. Je peux avoir 6 ans par moment quand je me sens surexcitée. Je peux me sentir très vieille si j'ai pas le moral. J'ai l'âge que je pense que les autres me donnent. J'ai l'âge, finalement, ça n'a pas tellement de. On est dans une société qui est très jugeante sur l'apparence. J'en sais quelque chose parce que je travaille sur l'apparence, mais aussi sur l'âge. Et je n'ai pas envie qu'on identifie une personne sur son âge. J'ai pas envie qu'on identifie une personne sur son physique ou sur sa silhouette. Quand on parle de silhouette en H, en X, en O, je trouve ça tellement réducteur, ces diktats. Et sur l'âge, c'est pareil. Je veux pas qu'on identifie une personne sur son âge. Et quand je demande à une de mes clientes de se présenter, ou un client, je ne lui demande pas son âge. Elle peut me le dire spontanément si elle en a envie. On fait avec. Si elle a des réticences, si elle me dit j'ai tel âge et ça, je ne veux plus porter ça, je le respecte. Mais de toute façon, on sent très bien, c'est plutôt l'énergie qui se dégage d'une personne. Mais je pense que pour. C'est vrai que si j'avais 20 ans, je le dirais, mon âge, on est moins gêné de le dire quand on est jeune, hein, je pense. Mais plus l'âge avance, plus, enfin, pour moi, je n'ai pas envie que ce soit un étendard, que d'en faire une fierté. Je suis pas fière de mon âge. Je n'ai pas envie de mentir sur mon âge, mais j'ai envie d'être libre de ne pas le dire. Comme on peut aussi être libre de ne pas parler de son corps, de ne pas parler de la beauté. On parle aussi beaucoup de body neutralité. Et on pourrait avoir un âge neutralité. Ce n'est pas une question, l'âge, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une définition, ce n'est pas quelque chose qui doit définir une personne. Ni l'âge, ni le poids, ni la couleur des cheveux, ni l'origine sociale. J'aurais pu, à un moment, en faire quelque chose, en tirer quelque chose, en faire une fierté. Regardez, pour mon âge, je suis comme ça. Mais j'ai pas envie qu'on me dise, ah bah oui, pour ton âge, t'es comme ça. Ah oui, pour ton âge, je ne veux pas de ça. Et je sais que pour les femmes, c'est compliqué de donner son âge. C'est compliqué dans notre société. On nous ramène toujours à ça. Et la prise d'âge n'est pas bien vue, évidemment.
Mais c'est vrai que je trouve ça atroce, c'est les commentaires qui disent pour son âge, elle est bien conservée ou ce genre de choses. Des fois, je me dis, ah, c'est horrible, pourquoi elle peut pas juste être belle
Donc, je ne parle pas de mon âge. On a assez à faire avec les représentations, avec l'apparence.
Cette saison de What's Next où je parle de l'âge, j'avais l'habitude. Même si ça fait que 3 épisodes, je pense que c'est le quatrième ou le cinquième que j'enregistre, de commencer par cette question de l'âge. Et tu vois, avec toi, comme on ne se connaît pas, contrairement aux personnes, aux autres personnes que j'ai interviewées, je me suis dit, ah, je ne peux pas lui demander son âge d'entrée de jeu, c'est un peu rude. Et puis, c'est vrai que je n'ai pas envie de parler d'un nombre en tant que tel. C'est vrai que c'est tout ce que tu viens de dire. En fait, finalement, c'est de ça dont j'ai envie de parler. C'est des représentations, c'est de comment on se perçoit et ce genre de choses. Et puis aussi, battre en brèche certains préjugés qu'on peut avoir sur, oui, sur ce côté, ces messages qu'on dit, elle est bien conservée, entre guillemets, pour son
Oui,
âge.
parce qu'il y a aussi cette injonction de revendiquer son âge à partir d'un certain âge, se dire, waouh, regardez, je sais pas, j'ai 45 ans, wow, et alors je suis tellement bien, ou j'ai 60 ans, ou c'est quand même, ah, je ne les fais pas, ou regardez tout ce que je peux faire encore. Mais tant mieux, enfin, je suis libre à chacune de revendiquer son âge et au contraire de le mettre en avant, pourquoi pas. Mais moi, j'ai pas envie de parler de ça, ça n'a pas, ce n'est pas un sujet.
Ça me rappelle dans quelque chose de presque un peu décalé, mais tu sais, Cillian Murphy vient de faire ce film, enfin, c'est sorti depuis un moment, mais Oppenheimer, il a refusé de dire combien il avait perdu de poids pour ce rôle, parce qu'il ne voulait pas qu'on dise oh là là, regardez cette performance d'acteur, il a perdu tant de kilos pour un rôle, il veut qu'on parle d'autre chose que de ça, quoi, aussi.
Oui, parce qu'à partir du moment où on le donne, et encore une fois, je pense que ce n'est pas un problème de donner son âge jusqu'à, je ne sais pas, peut-être 40 ans. Mais après, c'est tout de suite, on est tout de suite ramené à l'âge, quoi, pour son âge. C'est cette femme de tel âge a encore eu un enfant. Elle a eu un enfant à 45 ans. Waouh! Et bah, ça va être ramené à son âge. Elle a eu.
Malgré tout, moi, du haut de mes 40 ans, quand j'ai eu 40 ans, en fait, je savais que ça allait venir, hein, depuis quelques années, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est vrai, je sens que j'ai mon âge, mais j'ai l'impression que dans mes représentations dans le passé, j'avais l'impression que c'était, entre guillemets, que c'était âgé. Je me souviens de ma mère à 38, 40 ans, et en fait, oh, je ne vis pas du tout la même vie qu'elle, mais je trouve que ça challenge aussi certaines perceptions de dire. Ah, en fait, voilà, on est complètement entre guillemets normal donc quand on fait telle ou telle chose à tel âge. Ça m'aide aussi parfois de voir des femmes qui sont juste un petit peu en avance sur mon âge et de me dire ok, en fait, c'est complètement ça bouleverse mes représentations.
Oui, peut-être que ça peut aider en effet, mais enfin, en tout cas, c'est sûr que c'est pas facile de prendre de l'âge et de vieillir. Moi, je pense, pour moi, je ne réalise pas du tout mon âge et je le trouve surréaliste. C'est, ou comme tu peux te le dire à 40 ans aussi, de dire, oh, 40, mais c'est fou, j'avais 20 ans hier.
Mais tu sais, en même temps, j'ai une cousine qui a 30 ans, qui a juste 10 ans de moins que moi, et quand je lui ai souhaité ses 30 ans, elle m'a dit, oh, non, non, dis pas mon âge, 30 ans, je peux pas le voir. Donc. Donc, tu es styliste personnel, et qui sont tes clientes, en fait? J'ai dans l'idée, dans ce que tu écris, que justement, c'est peut-être des personnes qui viennent à des moments charnières de leur vie, je sais pas, après un divorce, ou quand les enfants sont partis de la maison. Est-ce qui vient te consulter? Pourquoi on vient te voir? Qui sont tes clientes?
Alors, il y a à chaque fois une histoire très différente, mais c'est vrai qu'il y a souvent une prise de conscience par rapport à l'âge. Je ne sais plus comment m'habiller à mon âge. Je ne veux pas ressembler à ma mère, mais je peux plus m'habiller comme ma fille. Ça peut être aussi, j'ai eu une période difficile, j'ai fait un burn-out et j'ai perdu le goût de m'habiller. Je change de boulot, je change de style de vie. Et je sais plus ce qui me va, ou un changement de morphologie. J'ai beaucoup maigri ou j'ai beaucoup grossi. Souvent, je ne comprends plus rien aux vêtements. Soit je n'ai jamais Rien compris aux vêtements, ça ne m'intéressait pas. Ce n'était pas mon truc parce que l'apparence, ce n'est pas ce qui compte, hein, la beauté intérieure. Et... Mais finalement, je me rends compte que si, que ça joue sur mon mental et sur, sur l'approche que j'ai, sur mon approche aux autres. Mais c'est toujours un... Oui, bien sûr, il y a une prise de conscience de, d'être, de se sentir bien dans ses vêtements, dans ce deuxième...
Ouais, c'est ce que là tu dis deuxième corps, parce que j'ai lu ailleurs, donc quand je te lis, j'ai toujours envie de je note, je surligne, je me dis ah, c'est une super citation, c'est super bien. Donc c'est dans un autre podcast que tu as fait, qui a fait le vêtement, c'est une deuxième peau, c'est ce qu'on donne à regarder aux autres et à soi. C'est en fait, c'est évident, mais je trouve que c'est important de le rappeler, quoi. Moi, je le sais, j'adore aussi. Je ne le fais pas tous les jours, mais quand je sens que je suis bien habillée selon mes propres critères, ouais, je me sens, il y a un côté, je me sens cool, il y a une certaine dégaine, je me sens à l'aise, quoi.
Oui, bien sûr. Ah ben, les vêtements nous portent, c'est évident, même quand on est seul chez soi. Moi, je ne pourrais pas être toute la journée en pyjama, ou alors j'enfile un autre pyjama, un pyjama de maison. Mais c'est comme, je ne sais pas, se laver les cheveux. Je pense que si on a les cheveux sales ou les dents sales, on n'est pas bien. Mais le vêtement, ça fait effacer le c'est Erasme qui disait que c'est le corps du corps, c'est vraiment une deuxième peau que l'on ressent vraiment physiquement. Hein, il y a eu des études qui ont été faites sur l'impact du vêtement sur soi. On parle toujours de l'impact du vêtement sur les autres. Ce qu'on donne à voir aux autres, bien sûr, c'est en deux secondes, quelqu'un te juge sur ton apparence, mais nous, le ressenti du vêtement sur soi, c'est aussi très important. Tu ne te tiendras pas de la même façon si tu portes un sweatshirt tout mou ou si tu portes une veste avec des épaulettes. Tu n'auras pas la même prestance, tu te tiendras plus droit, tu n'auras pas la même façon de respirer. Si tu mets des baskets, des ballerines ou des Santiago ou des boots army, tu n'auras pas la même démarche, tu ne te sentiras pas pareil. Donc, bien sûr que le vêtement a un impact. Si tu te sens serré, si tu te sens, au contraire, si tu mets un vêtement tout doux, ce ne sera pas du tout la même chose. Puis, il y a aussi l'imagination, tout ce qu'on met dans un vêtement, tout ce qu'on plaque sur l'image d'un vêtement. Justement, je ne sais pas, les Santiago, les westerns. Moi, je suis bien dans des western boots. J'ai l'impression que je marche vite, que je vais affronter le monde. Ce n'est pas la même chose avec des ballerines.
Mais tu sais, il fait quand même pas encore très chaud à Boston. Alors, j'ai une veste en espèce de moumoute que j'ai achetée chez Anthropologie. Elle a un col en velours jaune et elle a des rappels de ce velours jaune. Mais elle est grosso modo, je ne sais pas comment s'appelle cette matière, je l'appelle la moumoute. Et en fait, quasiment à chaque fois que je la mets, quelqu'un me complimente. Alors, ça se fait très souvent aux États-Unis de complimenter dans la rue, au café ou quoi. Et en fait, limite, quand je n'ai pas mon petit compliment, je me dis, mais attends, là, ils n'ont pas vu ma super veste. Moi, ça me donne, ça vient des autres, mais je sais que quand je la mets, je me dis, elle a quelque chose. Elle est originale, je me sens bien. Elle est très, elle est à la fois structurée et molle. Je me sens bien dans ce vêtement et c'est vrai que j'attends. Et oui, le compliment de la personne en face de moi.
Ben, ça fait plaisir d'avoir un compliment pour ces vêtements aussi. C'est comme ça peut faire aussi plaisir d'avoir un compliment sur l'âge, de dire ah mais tu fais pas ton âge. Ben, bien sûr ça fait plaisir, mais finalement on devrait pas se soucier de ça. Moi j'ai entendu ma mère toute mon enfance donner son âge et les gens autour d'elle disaient ah bon, mais c'est incroyable, mais non, vous faites 15 ans de moins.
Tu as parlé récemment justement de tes parents sur Instagram. Tu disais qu'ils avaient une troupe de théâtre amateur et ça avait été une influence pour toi justement sur ton goût des vêtements ou des vêtements originaux.
Oui, mais j'avais des parents très très stricts. Mon père qui ne parlait pas, qui était très austère et il avait une troupe de théâtre. Il ne s'exprimait qu'au théâtre, en parallèle de son travail. Et ma mère faisait des vêtements. Elle faisait des vêtements parfois très compliqués, des costumes du Moyen Âge, des costumes de du 17e, 18e, et j'étais vraiment dans cette ambiance de costumes. Il y avait aussi un petit théâtre qui renfermait des mâles avec ces costumes qui sentaient la poussière, et j'ai forcément été influencée par tous ces tralala et ce goût du déguisement.
Oui. En tant qu'enfant, en plus, j'imagine la malle remplie de vêtements pour se déguiser, c'est génial, quoi.
Mmh. Oui, oui.
L'étiquette thérapeute, elle est juste à côté de la mention du fait de styliste. Et ça peut sembler surprenant au premier abord. Après, des concreuses ont dit, ben oui, il y a sans doute un lien entre le vêtement, comment on s'habille, et puis quelque chose de thérapeutique. Est-ce que tu peux me parler de ces deux facettes de ton activité, comment elles s'articulent?
Oui. Alors, quand j'ai commencé cette activité de styliste personnel il y a 15 ans, très vite, on m'a dit, mais vous me faites du bien, vous êtes m'apportez tellement de choses, plus que ma thérapeute. Alors, je trouvais ça un peu curieux, mais finalement, je me suis rendu compte que c'est vrai, quand on parle du vêtement, on parle du corps, on parle de soi, d'image de soi, de blocage, de ce qui nous relie au monde, du regard que l'on porte sur soi et que les autres portent sur vous. Et j'ai fait une formation pour appuyer tout ça, parce qu'il ne s'agit pas d'aider les autres, de parler de l'image de soi sans outils. Et on peut commencer des séances, avant de parler de morphologie, de style, commencer par des séances sur l'image de soi, enfin, notamment pour des personnes qui ne peuvent pas se regarder devant un miroir. Alors, je ne suis pas psychologue, hein, je ne peux pas parler de dysmorphophobie, mais de regards qui sont un peu biaisés, de personnes qui me disent je ne peux pas m'habiller parce que je me trouve toujours, parce que je me trouve moche, je ne peux pas m'habiller parce que les autres, si je porte des couleurs, j'ai l'impression qu'on va me regarder, on va me trouver prétentieuse, ou alors dans mon cercle d'amis, on va me juger. Donc, on peut aussi travailler là-dessus, des personnes qui n'arrivent pas à pousser la porte d'une boutique, qui sont gênées par les vendeuses. On travaille, ça remonte. Très souvent, ça remonte, c'est des blocages qui remontent à l'enfance. Ça peut être lié au regard de la mère, très souvent, puisque c'est le premier regard qu'on sent sur soi. Et s'il n'a pas été bienveillant, ça peut être très compliqué pour la suite, pour l'image de soi.
Puisque tu parles de la mère, je vais parler de la mienne. Moi, j'ai vu ma mère, je pense, toute mon enfance, peut-être plus aujourd'hui, mais elle a toujours porté des mini-jupes. Et c'est vrai que j'ai jamais eu cette idée de, à partir de tel âge, on ne met plus de jupes. Je me suis toujours dit, en fait, on met des mini-jupes jusqu'à tard. Puis un jour, c'est vrai qu'elle a dit, je ne sais pas quand est-ce que c'était, mais elle a dit, je vais arrêter de mettre des mini-jupes. Ça me fait penser à ça. Je n'ai pas peur de mettre des mini-jupes. Grâce à ma mère, je pourrais lui dire merci. Quel a été ton premier job? J'ai fait une liste au tout début, mais est-ce que tu peux me dire, en fait, quel a été ton premier travail?
Alors, mon premier travail, oui, c'était, enfin, mis à part des petits boulots d'été, c'était animatrice à Radio France, Nancy Lorraine. J'avais deux émissions par semaine et j'adorais ça. J'adore la radio, c'était un de mes supports préférés. Et je faisais des reportages, j'animais, j'avais mon émission en direct. Et c'était vraiment pour moi, c'était une période enchantée. J'aime toujours autant la radio. Si je suis invitée à la radio, sur un podcast, j'adore ça. J'adore ce support.
Mais tu ne parlais pas de mode nécessairement?
Pas du tout. Ah non, la mode, c'est arrivé tard, même si c'est un sujet qui m'a toujours intéressée, même si le vêtement, ça a toujours été une question importante. Pour moi, ça a toujours été une joie, une évasion. J'ai travaillé dans la mode. Non, la mode, c'était à part travailler dans un magazine de mode. Mais même quand je travaillais dans un magazine féminin, je n'écrivais pas sur la mode. C'est arrivé après.
Est-ce que tu pourrais m'expliquer, est-ce que tu as un moment, c'est peut-être pas un déclic, mais différents moments qui t'ont fait te dire, outre ton intérêt pour toi bien t'habiller, quand est-ce que tu t'es dit, ok, je vais en faire mon métier, je vais devenir styliste, je vais vraiment écrire sur ça.
Comment ça s'est passé? Alors après la radio, oui, j'étais à Nancy, je suis partie à Paris. Ensuite, j'ai travaillé dans une société de production de films. Ensuite, j'ai écrit des scénarios de films. J'ai fait un peu de doublage aussi. J'adorerais en refaire d'ailleurs. j'écrivais des scénarios de films, j'ai commencé à travailler pour la presse féminine, je faisais des sujets autour de la santé, de la nutrition, parce que c'est un domaine que j'aime aussi, qui m'a toujours attirée, ce côté médecin, j'aurais bien voulu être médecin aussi, mais j'étais trop nulle en maths. J'ai écrit des sujets psycho, donc je me suis aussi formée en écrivant finalement, parce que une quinzaine d'années à interviewer tous les psys, les thérapeutes, les psychiatres, ça marque. Et puis la mode, c'est arrivé. J'étais rédactrice d'un magazine féminin. Et puis c'était le début des blogs. Donc je voulais écrire un blog qui s'intéresse aux femmes à partir d'un certain âge, justement. À partir de quel âge? Plutôt 35 ans. Parce qu'il n'y avait pas de blog à l'époque. C'était plutôt des filles jeunes qui écrivaient, 25 ans. Et j'étais un peu plus âgée et j'avais envie de m'intéresser de donner des conseils mode. Au départ, on ne me voyait pas sur le blog. Et puis, très vite, j'ai commencé à conseiller des hauts dirigeants, surtout des hommes, des gens de pouvoir sur leur image, sur l'apparence. Et avec le blog, ça m'a permis d'ouvrir et d'intéresser le plus de personnes possible et des femmes de tous les âges, de tous les milieux. Et puis ensuite, l'Express Style m'a demandé d'héberger mon blog, d'écrire des sujets. Après, j'ai travaillé pour Glamour et là, je me suis vraiment concentrée sur le vêtement. J'écris pas sur la mode, je considère pas que j'écris sur la mode parce que je fais pas de compte-rendu de défilé, par exemple, mais j'ai pu écrire sur comment on s'approprie une tendance. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est une personne à vêtement, plus que la mode en elle-même, même si bien sûr, il faut que je suis ce qui se passe, je suis les tendances, mais je parle plutôt d'une personne qui porte un vêtement. Plus que la mode.
C'est un plaisir de lire tes chroniques dans le L, quoi. C'est toujours. C'est vrai que la question est parfois attendue. Je sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais la réponse ne l'est jamais. Je me dis toujours, tu vois, les 5 conseils à ne pas suivre. Je me suis dit, est-ce que c'était ça la formulation? Oui, les 5 conseils à ne pas suivre. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va être? Et c'est pas quelque chose de ne porte pas ci, ne fais pas ça. C'est des questions plus globales, quoi. Je trouve que tu as vraiment un art de décortiquer ça, quoi.
Alors, merci. C'est vrai que j'ai tellement écrit sur le sujet. En plus, j'ai écrit 4 livres autour de la mode, du style. J'ai tenu mon blog pendant 13 ans. Je postais 3 fois par semaine. J'ai écrit pour plein de supports différents, donc il faut que je me renouvelle aussi. Et puis, si j'ai voulu écrire et faire ce métier-là aussi, c'était pour faire un pied de nez à toutes ces injonctions et ces diktats qu'on entend encore des années après sur si tu as une silhouette en X, tu dois porter ça, si tu as un O, tu dois mettre ça, si tu as telle couleur de cheveux et tel teint, tu dois porter telle couleur. C'est vraiment, je trouve ça tellement réducteur de mettre les femmes dans des cases, enfin, surtout aujourd'hui. C'est vrai, encore une fois, ça peut rendre service pour des personnes qui sont démunies. Pour quelqu'un qui s'habille en noir, qui n'ose pas sortir du noir et qui aime envie de couleur, se faire prescrire des couleurs, c'est intéressant. Ça peut aussi, ça peut l'ouvrir.
Dans mon évolution, qui n'était vraiment pas liée à la mode, mais j'ai eu l'impression que partir aux États-Unis, il y a eu un côté très décomplexant parce que les gens sont donc ne suivent, j'ai l'impression, ne suivent pas de règles. Et puis là maintenant, il y a toute la génération des gens de 20 ans qui arrivent, et puis c'est des gens qui des fois portent des crop tops, portent des choses très larges. On a l'impression qu'il n'y a pas de règles, mais il y a aussi beaucoup de jeux. Les cheveux sont coupés d'un côté, il y a des piercings, il y a des couleurs. Enfin, je trouve, c'est vrai que c'est très décomplexé, et c'est décomplexant aussi pour moi.
Et justement, je vois aussi des personnes qui reviennent en France. Tu parlais des raisons pour lesquelles on vient me voir. Et je vois aussi des personnes qui me disent, j'ai vécu à Londres ou j'ai vécu aux États-Unis. Là, je reviens et là, je n'ai plus les codes. Je ne sais plus ce que je dois faire par rapport à mon boulot. Parce qu'il y a quand même des travails, je sais pas, dans la finance où on ne peut pas s'habiller n'importe comment.
Comment tu organises ta semaine? C'est une question très concrète, mais en tant que freelance, je suis toujours curieuse de savoir comment les autres freelance font. Comment c'est une semaine dans ta vie de travail?
Alors, elle est partagée entre l'écriture, le temps d'écriture. Alors, ça peut bouger, c'est pas forcément les mêmes jours parce que ça va dépendre des rendez-vous. Alors, les séances et puis aussi les temps plus longs de détox penderie et de shopping qui la prennent des demi-journées. Il n'y a pas vraiment de temps d'arrêt parce qu'il y a aussi les posts Instagram. Donc, j'ai l'impression de travailler tout le temps. Alors maintenant, il y a la Bretagne où j'essaye de passer quelques jours par mois, mais où j'emmène aussi mon ordinateur parce que j'écris. Je peux faire des séances en visio aussi. Donc, la semaine, oui, elle est partagée. Alors, parfois, il y a aussi des temps où je m'accorde la visite d'un showroom, une rencontre avec un créateur. Mais c'est quand même bien à flux tendu, c'est bien chargé.
Est-ce qu'en t'écoutant, je me demande cette question, mais elle n'est peut-être pas du tout pertinente, mais est-ce que tu as envie d'écrire sur autre chose? Est-ce que tu dis que c'est les vêtements, cet univers, c'est la dernière chose sur laquelle tu vas écrire ou tu as envie de passer à autre chose? Pourquoi pas?
Alors, j'ai écrit un premier livre, enfin, oui, je l'ai écrit, même si sur le livre c'est écrit avec Isabelle Thomas. Mais, hein, on sait quand tu travailles dans l'édition, tu sais que ça veut dire le avec, que c'est la personne qui a écrit. Et là, c'était un livre sur le premier mois avec un enfant. Donc, ça, c'était vraiment de la psycho. Après, non, je vois pas. Ce que j'aimerais faire, c'est dessiner, faire une BD. Ça. Oui, écrire un peut-être dessiner, oui, sur le vêtement, sur les dessins humoristiques, comme j'ai parfois fait sur d'ailleurs sur le blog et Instagram. Mais je dessine pas bien du tout.
Mais on voit parfois des. Je vois certains de tes dessins effectivement passer parfois sur Instagram ou en illustration. Mais parfois, alors je ne veux pas juger de la qualité ou quoi, mais parfois, il n'y a pas. Sans que ce soit. Il y a certaines illustratrices qui ne sont pas réalistes, les plus réalistes, et ça marche quand même pas.
Oui, ça marche, oui, il y a quand même une patte, voilà, donc on verra. Mais un livre, non, sur un autre sujet, non, ce serait faire autre chose, peut-être faire évoluer mon métier encore différemment,
C'est pas
ou
d'accord.
alors ça peut être aussi réécrire des scénarios de films.
Tu disais le doublage aussi.
Ah bah oui, ça c'est autre chose, ah bah oui, ça j'adorerais, c'est sûr.
Mais c'était du doublage de dessin animé ou de voix étrangère?
Alors, de dessin animé. Ce que j'ai fait, c'était uniquement du dessin animé.
Mais ça doit être amusant, j'imagine.
Oui. Ah oui, c'est génial. Mais là, je ben, ça peut être. Je pourrais doubler des films. Pas forcément des voix de souris ni de petites filles.
J'ai une dernière question pour conclure notre interview. Isabelle, dans quelle ère de ta vie, dans quelle phase de ta vie tu te trouves?
Ben, à la fois comme l'âge avançant, je me dis que là justement, moi je le ressens, qu'il est temps de faire des choses, qu'il ne faut pas trop tarder, parce que je suis passée de l'autre côté. Bon, alors on peut passer de l'autre côté, je ne sais pas, on peut se dire ça on peut se dire ça aussi à 40 ans, à 50 ans, je ne sais pas, mais moi je sais que là j'ai envie de faire des choses que j'ai jamais faites. Je me dis, il est temps, parce que même, je sais pas, ça peut aussi, le physique peut se dégrader.
Écoute, Isabelle, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me parler cet après-midi pour toi, ce matin pour moi à Boston.
Ah, merci à toi.
Merci beaucoup à Isabelle d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Et vous savez, parfois, on coupe un peu trop vite le micro et on a continué de discuter, bien sûr, juste après cet entretien. Isabelle me disait que même si elle ne dit pas son âge, elle fête son anniversaire. Et je me suis dit que ça valait le coup de le dire. Voilà, faut fêter les fêtes. Ça, c'est ma mémé qui disait ça. Donc voilà, on ne dit pas son âge, mais on fête son anniversaire et on profite, on célèbre la vie année après année. Je m'appelle toujours Mathilde Piton et vous avez écouté What's Next. C'est un podcast indépendant créé et produit par moi-même et soutenu par vous, les lectrices de What's Next. Le lien pour accéder à la newsletter est en note du podcast et directement c'est whatsnextmathilde.substack.com. Je suis aussi sur Instagram à What's Next Mathilde. L'épisode vous a plu? Parlez-en autour de vous, envoyez-le à votre mère, à une amie, à une cousine ou un cousin qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Je vous dis à dans 2 semaines et puis bien sûr je vous retrouve sur What's Next, la newsletter.